With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
Bonjour à tous et bienvenue à l'heure des pros ce matin. Cette réforme est indispensable quand on se compare en Europe. Aux Pays-Bas hier, Emmanuel Macron a justifié la réforme des retraites par cet argument d'autorité. On le fait parce que les autres le font. Cette logique avait aussi prévalu pour le Covid. L'esprit moutonnier guide le chef de l'État qui oublie le sort que Panurge réserva aux troupeaux. Il y a deux questions pour cette réforme. Est-elle nécessaire, utile, essentielle? Et manifestement, les experts sont divisés jusqu'au président du Conseil d'orientation des retraites, le COR, qui affirme qu'il n'y a pas d'urgence. Est-elle juste, honnête, équitable? Et manifestement, le cas des femmes, notamment, montre le contraire. J'aurais aimé qu'Emmanuel Macron explique sa réforme, qu'il convainc la France, qu'il justifie ses choix. Au fond, je me fiche de ce que font les voisins. Mais puisqu'il prend cet argument, qu'il n'oublie pas non plus que tous les pays du monde ont réintégré les soignants non vaccinés. Il est vrai que le président avait décidé de les emmerder. Hier, c'était les soignants. Aujourd'hui, ce sont les manifestants, sans doute. Circuler, il n'y a rien à voir. La stratégie est risquée. Le président est joueur. Il joue la France à pile ou face. Il est 9h. Audrey Berthaud.
Et forte mobilisation aujourd'hui chez les jeunes. Ils sont à nouveau appelés à se mobiliser dans les lycées, les universités et dans la rue contre la réforme des retraites. Regardez ces premières images devant le lycée Hélène Boucher du 20e arrondissement de Paris. Ce matin, des premiers affrontements entre policiers et lycéens ont débuté. Les syndicats enseignants qui prévoient 50% de grévistes parmi les professeurs de la maternelle au lycée. Le Sénat examine aujourd'hui une proposition de loi pour mieux protéger les propriétaires contre les squatteurs. L'une des mesures emblématiques triple les sanctions encourues par les squatteurs, jusqu'à 3 ans d'emprisonnement et 45 000 euros d'amende. La proposition de loi a été votée en première lecture par l'Assemblée nationale avec le soutien de la droite et du Rassemblement national. Et puis le rapport provisoire de la mission d'audit sur la Fédération française de football. Elle accable son président Noël Le Graët. Il n'a plus la légitimité pour représenter le foot français. Le document pointe également du doigt une attitude problématique vis-à-vis des femmes qui peut être qualifiée au minimum de sexiste.
On est là, Gérard Leclerc, Vincent Hervouet, Joseph Massescaron, Fabien Villedieu, que vous connaissez, et Gauthier Lebret sont avec nous. Bon, c'est une journée importante, on va voir ce qui se passe. Moi, je voulais vous lire ce matin ce que François Langlais, c'est pas un odieux gauchiste ou un affreux gauchiste, c'est pas un mélenchoniste absolu. Dans le Figaro ce matin, c'est passionnant de lire François Langlais, comme souvent. Que dit-il? Les gens ne croient plus ni au déficit ni au milliard, car la crise sanitaire a profondément changé notre perception de l'argent public. Il n'y avait plus un fifrelin et d'un jour à l'autre, des centaines de milliards se sont trouvés disponibles pour lutter contre les effets économiques de l'épidémie. C'est un argument important que je retiens. Deuxième chose, que dit-il sur la réforme? Il dit le président, et ça pose aussi un problème, a changé de pied en permanence. Étape 1. Pendant la campagne électorale de 2017, il n'y a pas de problème de déficit. Faisons la retraite à point. Étape 2, en 2019, après tout, allongeons quand même la carrière avec l'âge pivot, tout en gardant le système à point. Étape 3, campagne électorale de 2022, finalement oublions le système à point, oublions l'âge pivot et retardons l'âge légal, car tout bien considéré, il y a un problème de déficit. Il n'y a pas un argument utilisé pour justifier la réforme d'aujourd'hui qui n'ait été contredit à un moment donné par Emmanuel Macron lui-même. Alors ça pose forcément un problème dans l'opinion publique. Ça pose un problème quand on dit tout et son contraire. Ça pose un problème pour affirmer une volonté.
Oui, vous savez, très souvent, les parents qui vont faire des courses avec les enfants, ils voient les enfants se précipiter vers les fruits. Et puis surtout, ne touche pas parce que tu vas gâter le fruit. C'est vrai qu'ils aiment bien toucher le fruit. Le problème avec Macron, c'est que la réforme, il y a une bonne réforme, sur le principe nécessaire, au départ, et qu'on a l'impression que vraiment tout ce qu'il touche, il le gâte. Voilà, c'est ce que vous venez de dire.
Bon, Fabien Villedieu, moi, ce qui m'intéresse ce matin, c'est que j'ai l'impression que c'est complètement bloqué. Et je me dis, mais comment ça peut évoluer? Et ce qui m'intéresse, c'est le point de vue, évidemment, des syndicats. Est-ce que les syndicats sont jusqu'au boutistes? Est-ce que vous irez au fond de toutes les actions. Est-ce que vous êtes prêt à, vous êtes Sudrail, à bloquer le pays et à ne rien céder?
Vous savez, les syndicats, c'est un outil. Voilà. Si, et ce qui est important, ce n'est pas ce que pensent les syndicats, c'est ce que pensent les gens. Parce que si demain, ou aujourd'hui, les syndicats appellent à venir en manifestation, il n'y a personne ou il n'y a pas grand monde, bah finalement, on ne sert à rien. Voilà. Et aujourd'hui, on est porté, enfin, les organisations syndicales, on est porté par des milliers de gens, y compris des milliers de gens qui, certains, ne sont pas syndiqués, dans la très grande majorité. Vous imaginez bien, quand vous mettez plus d'un million de personnes le 19 dans la rue, c'est que ça dépasse largement les rangs des syndicats, y compris des gens, même des, il y a même des chefs d'entreprise. Voilà, qui viennent dans les manifestants.
Il y a même l'enseignement catholique.
Voilà, il y a
l'enseignement voilà. catholique est en grève, ce qui n'est jamais arrivé, je crois, depuis 1984.
Oui, mais vous entendez les représentants justement de la CFTC, ils sont sur la même ligne que monsieur. Hein.
Voilà, on est porté justement par, en gros, la population, dans une frange importante de la population.
68%
française,
des gens.
Qui nous demandent bah, de ne pas lâcher. Enfin, voilà.
Oui, mais
c'est la population qui nous demande
oui,
de ne pas
alors,
lâcher.
Oui, mais alors j'entends aussi beaucoup de gens qui disent moi, j'ai pas les moyens de faire grève. Et déjà, il y aura moins de grévistes parfois dans certains secteurs parce que c'est une journée de perdu. Par exemple, aujourd'hui, vous faites grève. Vous avez déjà fait grève, je crois, il y a 2 ans ou 3 ans, longuement. J'imagine que sur le terrain, c'est un argument que vous entendez.
Oui, certains feront peut-être pas grève aujourd'hui alors qu'il avait fait le 19, mais certains feront grève aujourd'hui alors qu'il n'avait pas fait le 19. Et du coup, finalement, tout ça va faire que... Après, moi, je ne veux pas tirer le bilan ce matin de la journée d'aujourd'hui parce que voilà... on verra un peu ce qui va se passer ce soir. Mais en tout
oui, mais
cas,
il y a une AG, par exemple, à Gare de Lyon,
oui, il y a une
à
AG.
10h.
Bon. 11h. 11h.
11h. Bon, qu'est-ce que vous disent vos camarades?
Bah, les camarades, en tout cas les collègues cheminots, ils nous disent qu'ils sont prêts à se battre, mais qu'ils ne veulent pas se battre tout seuls. Voilà, bah, ça tombe bien, on se rend compte qu'il y a beaucoup de mobilisation dans énormément de secteurs.
Parce que la dernière fois, vous êtes battu tout seul, vous avez le sentiment...
Ah, en 2019, alors il y avait la RATP, mais c'est vrai que, comment dire, avant c'était plus simple. Hein, on partait bille en tête les cheminots, et puis au bout d'une semaine, on se retournait à droite et à gauche, et on regardait est-ce qu'il y avait du monde qui nous suivait. Bon. Des fois, des secteurs nous suivaient, beaucoup ne nous suivaient pas. Et il y avait une espèce de grève par procuration. Les collègues ne veulent pas de grève par procuration, on peut le comprendre. En tout cas, on ne part pas sur une grève par procuration parce qu'il y a énormément de secteurs. Je vois, il y a plein de petites boîtes où les gens sont en grève, tout simplement, mais parce qu'ils ne se voient pas bosser jusqu'à...
Ici, je parle souvent des métiers pénibles, et il y en a, effectivement. Mais il y a des métiers, parfois, qui ne sont pas pénibles. Et je cite le comptable de la SNCF. Le comptable de la SNCF, il part à 57 ans. Il ne sera pas menacé dans son entreprise. Le comptable de CNews, il part à 64 ans et il peut être viré demain matin. Bon, c'est injuste. Donc, est-ce que vous acceptez l'idée que vous bénéficiez parfois de privilèges? Le comptable de la SNCF, il n'est pas roulant, que je sache.
Alors d'abord, le comptable de la SNCF, aujourd'hui, il est embauché en tant que contractuel, c'est-à-dire comme tout un chacun, en droit privé, parce qu'il n'y a plus d'embauche aujourd'hui au statut depuis 2 ans.
Oui, mais peut-être aujourd'hui.
Par ailleurs, le piège de la division, on nous l'a beaucoup, on a beaucoup justifié des réformes.
Ça s'entend.
On a beaucoup justifié des réformes qui concernaient tout le monde au nom de l'équité. Voilà. Je pense que les gens, ils tombent pas dans ce piège-là parce que tout le monde a compris que tout le monde sera décalé de 2 ans. Et par ailleurs, je veux pas revenir.
Ça s'entend, mon argument. Je veux bien, la pénibilité de certains métiers, je veux bien, mais un métier égal, un comptable et un comptable, c'est deux comptables.
Donc, je vais vous dire ce que j'ai déjà développé ici. Les régimes spéciaux, et d'ailleurs pas que celui de la SNCF, n'ont jamais été mis pour des raisons de pénibilité. Vous avez raison. Vous avez raison là-dessus. Ils ont été mis pour des raisons de fidélisation.
Oui, d'accord.
Voilà, pour que les gens y restent. Voilà, parce que c'est souvent des entreprises où il y a des particularités. Voilà, le ferroviaire, enfin un caténériste, vous trouvez pas des caténéristes partout. Voilà, un conducteur de train, ça se trouve pas partout. Un agent qui bosse sur un TGV, c'est des particularités par rapport à un garagiste. Voilà, si vous voulez que les agents y restent, eh ben il y avait un peu la carotte des retraites. Donc c'est pour ces raisons-là. Et d'ailleurs, pourquoi les patrons avaient mis en place justement ces régimes spéciaux? Pour justement fidéliser les salariés. Lorsque vous allez les enlever.
Un rapport de force peut-être aussi.
Aussi pour les fidéliser. Et je rappelle que les régimes spéciaux ont été mis en place par les patrons du ferroviaire à l'époque. Et aujourd'hui, les difficultés auxquelles ils vont être confrontés, ça va être l'histoire de la fidélisation. J'ai lu les Échos là hier, ils disent les Échos, problème numéro un, c'est les chauffeurs de bus. Voilà. On n'arrive plus à trouver des chauffeurs de bus. Et donc notamment parce qu'il faut... Il faut des leviers de fidélisation. Parce qu'une fois que vous enlevez tous les intérêts de ces métiers-là, bah, la résultante de quoi? Bah, c'est que vous attendez votre bus ou votre train qui ne vient pas.
Je sens que vous avez envie d'intervenir.
Je ne suis pas du tout d'accord avec vous. Je pense que le comptable de chez Vivendi va plutôt bien. Le comptable de la SNCF, quand il regarde les comptes de l'entreprise, est totalement déprimé. Ça doit être un métier extrêmement stressant d'être comptable à la SNCF et de regarder la réalité des comptes de l'entreprise.
Mais vous faites 2,2 milliards de bénéfices, donc ça va avec.
Bah oui, mais il y a combien ? Et chaque Français, chaque foyer fiscal paye combien pour renflouer
les, mais les Français,
les caisses de la SNCF, parce que c'est 1700 euros par foyer fiscal.
Non, pas du tout. C'est juste que la SNCF fait 1700. Du service public. Comme les Français payent le service public à l'école, dans les hôpitaux, ça fait partie. Moi, je fais des trains, je vous le dis, monsieur, je fais des trains qui ne sont pas rentables. Voilà. Moi, la ligne entre Melun et Corbeil, c'est des trains qui ne sont pas rentables. C'est du truc de dingue, c'est du service public.
Mais Vincent, d'abord, je crois que.
Et on a besoin aussi du comptable.
Je crois que le bilan d'exploitation est positif à la SNCF. La SNCF gagne de l'argent une année sur l'autre. Mais cet argument, effectivement, de l'aménagement du territoire et de lignes qui ne sont pas rentables s'entend. Je suis désolé de vous le dire. Moi, j'avais été convaincu du monopole naturel de la SNCF pour cette raison.
L'État a quand même repris 35 milliards de dettes de la SNCF.
Oui, mais la dette, c'est l'aménagement du territoire. C'est-à-dire que tu as investi.
Tu as cassé les pieds avec. Bon, bref.
Bon, non, mais si, continuez le débat. Dites.
Non, mais je veux dire, si les Français avaient un peu conscience de l'ampleur du trou qu'il faut renflouer.
Oui.
Si on avait dit un jour aux Français, vous savez, la SNCF est en faillite. Je ne sais pas comment est-ce que le corps social aurait réagi à ça. On est en train de nous bassiner avec la réforme des retraites qui mobilise, évidemment, puisqu'elle est une mauvaise loi, l'essentiel des... Il y aura un monde fou dans la rue aujourd'hui. Mais
Vincent, tu ne peux pas pleurer, on ne peut pas pleurer en permanence sur la fracture territoriale.
Et d'ailleurs, alors ça c'est très intéressant, la fracture territoriale, parce que qui manifeste aujourd'hui, par exemple, les villes moyennes ? Ce qui n'arrive jamais. Et on sera tout à l'heure, notamment, avec Jean-François Amadieu. C'est un des phénomènes marquants de cette grève, quoi, de ces mouvements sociaux, c'est les villes moyennes, voire petites villes, qui ne manifestaient jamais et qui se cet après.
Nous qui manifestons. On fait le mouvement des gilets jaunes.
Oui, c'est ça, c'est la France périphérique. Vous avez raison.
Prends exemple. À Cholet.
Vous avez raison.
À Cholet.
Ouais.
Il y a 27 000 habitants. Il y avait 3 000 manifestants dans la rue.
Ouais.
3 000 sur 27 000.
Et à Nantes, il n'y a jamais eu autant de manifestants, qui est une ville plus importante, bien sûr, que Cholet. Alors, on va effectivement écouter quelques voix, notamment ceux qui sont en galère ce matin. Les équipes de CNews les ont interrogés.
Je suis venu plutôt pour être sûr qu'il n'y ait pas de problème, ayant en crainte un peu des transports. Et puis sinon, je devais partir de Massy, je suis parti de Gare de Lyon. Voilà. On se débrouille, il y a déjà des trains.
Je suis parti un petit peu plus tôt en métro de chez moi, comme c'est la ligne 1. Ligne automatisée, j'ai pas eu de soucis, je suis même arrivé un peu trop tôt.
J'imagine que ça va être chiant pour ceux qui devaient aller travailler, pour ceux qui devaient aller au boulot. Moi, c'est juste un voyage de loisirs, donc soit, je suis pas pressé.
Les mairies qui sont fermées, ça vous choque ? Les mairies qui sont fermées, ça vous choque ? Non, ça ne vous choque pas aujourd'hui, le service public ? Bon, ça ne vous choque pas. Bon, les sectorales...
Celle de Paris a été ouverte à un moment.
L'hôtel... C'est tellement, oui, Gérard ?
Non, je veux dire, c'est tellement un petit phénomène, franchement, par rapport à l'ensemble du mouvement. Je ne sais pas ça. Moi, je trouve pas normal qu'une mairie ferme ses portes, parce que le mairie, c'est service public, donc ça doit être ouvert. S'il y en a qui veulent faire grève, ils font grève.
Bon.
Donc je suis contre. Mais je veux dire, c'est vraiment prendre le sujet par le petit bout de la lorgnette. Simplement, je voulais en dire un mot sur la SNCF. Moi, je suis tout à fait d'accord avec vous. Je pense que c'est un service public.
Bah oui.
Et je pense que c'est extrêmement important.
Oui.
Ça n'empêche que l'on peut quand même se poser des questions sur la façon dont est gérée la SNCF. Et deuxièmement, ne pas constater effectivement que la SNCF coûte quand même très cher. Moi, j'accepte qu'elle coûte très cher à condition qu'elle fonctionne bien. Or, quand c'est l'entreprise qui, à elle seule, représente quasiment la moitié des jours de grève de l'ensemble du pays pour 130 000 salariés, je pense qu'il y a un petit problème. Sur les avantages sociaux, je ne pense pas qu'il faille tous... Il faut regarder au cas par cas. C'est vrai que ceux qui sont des roulants, etc., c'est peut-être c'est normal qu'ils aient des avantages sociaux. Mais sur l'ensemble des salariés, on peut aussi se poser la question s'ils sont tous justifiés. Voilà. Et je suis pas le seul à le dire parce que monsieur disait avec tout à fait raison que la grande majorité des Français n'ont pas envie de travailler 2 ans de plus. C'est clair, ils sont contre la réforme, qu'ils veulent pas travailler 2 ans de plus. Sont pas du tout d'accord avec le maintien des régimes spéciaux. Et si vous faites le sondage, vous verrez qu'il y en a une majorité aussi qui sont contre les régimes sociaux. Alors, il ne faut peut-être pas définitivement supprimer les régimes spéciaux, mais ça, tout ça mérite quand même un peu de réflexion. Et de...
Au-delà de ce que vous dites, on ne comprend pas, je le répète, les deux questions. Est-ce indispensable? Est-ce juste? Ces deux questions
qui sont différentes.
Oui,
c'est indispensable, mais... C'est indispensable, je pense que oui.
Mais il a dit le contraire. Il nous a dit le contraire, Monsieur Macron.
Bien évidemment,
il nous a dit le contraire, Monsieur Macron. C'était pas indispensable d'à deux ans. Pourquoi ça l'est aujourd'hui?
Il avait lancé la réforme.
Mais alors il y a trois ans, mais enfin.
En 2017.
Mais non, pardonnez-moi, c'est pas en 2017 le fameux extrait que je passe en permanence, c'est pas 2017.
Non, à l'époque, 2019,
c'est en 2019.
Oui, mais il y a une réforme qui est engagée, qui est la réforme par points, donc il y a bien une réforme.
Mais Gérard, soyons objectifs.
Ben justement.
Mais François Langlais, tout le monde le dit.
François Langlais, il a raison. Sur les changements de pied, il a raison. Mais passer d'une réforme à une autre, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas faire de réforme.
En 2019, il a un éclair de lucidité. Il dit quoi, M. Macron, président de la République? Il dit bon courage déjà pour aller jusqu'à 62 ans. Mais c'est vrai, bon courage déjà pour aller dans 62 ans, parce que dans énormément d'entreprises, les seniors, on s'en débarrasse. Voilà.
Évidemment, ça fait semaines, des jours qu'on en parle. Moi, je veux bien. Et puis, l'argent public, on ne peut pas t'expliquer que tu es en peine de 15 milliards quand tu viens de balancer 400 comme ça. Je suis désolé, un enfant de 10 ans comprend ça. Le Covid a changé la perception des choses. Ils ont fait n'importe quoi sur le Covid et maintenant on paye les conséquences.
Tout ce que dit l'anglais est vrai, ça ne veut pas dire, il ne dit pas lui-même qu'il ne faut pas faire de réforme des retraites, c'est tout.
Mais pourquoi ne pas dire la vérité? C'est-à-dire que cette réforme...
Quelle question!
Pourquoi ne pas dire la vérité au peuple qui nous écoute?
C'est que Macron lui-même l'a dit, c'est un enjeu politique.
Mais oui,
Cette réforme, c'est-à-dire remettre cette réforme sur le canevas lui a été murmuré par Nicolas Sarkozy, qui lui a dit, c'est très simple, tu as une majorité relative à l'Assemblée nationale. Si tu veux qu'il y ait un contrat de gouvernement avec les Républicains, prends-les à leur propre piège et mets cette réforme sur la table. Et c'est ça qui est fait. Et encore une fois, Nicolas Sarkozy est persuadé et va voir député aujourd'hui, député par député, pour leur dire, il faut que vous votiez cette réforme, pour ensuite donner une majorité à Emmanuel
Macron. Leclerc est devenu Sarkozy.
C'est ça la vérité. Et c'est pas les étrangers, et c'est pas l'Europe, et c'est pas ceci. C'est une histoire de petite politique politicienne.
Sauf que 54% des électeurs LR sont opposés à cette réforme, ce qui est quand même paradoxal, puisqu'il y a quelques mois, ils ont voté pour Valérie Pécresse, qui proposait 65 ans. Et il y a un autre changement, Pascal, contrairement à 1995 et à 2010. Aujourd'hui, selon l'IFOP, à peine un retraité sur deux, alors qu'ils sont plutôt gagnants dans cette réforme, est favorable à cette réforme. Il y a ceux qui vont avoir une pension minimale revalorisée avec les 1200 euros de pension minimale, et surtout ils ne sont pas mis à contribution, ils sont sauvés par cette réforme puisqu'on ne touche pas à leur pension, à leur niveau de pension. Eh bien, un retraité sur deux est quasiment contre cette réforme.
Gauthier, quand...
Et qui est, en plus, c'est l'électorat d'Emmanuel Macron, 40% pour les tours.
C'est intéressant le débat qui a eu lieu depuis deux mois. Moi, il y a un an, quand on me disait la retraite à 65 ans, je disais, regardez les autres pays, il faut que tout le monde travaille plus. Bon, tu as une approche comme ça, théorique, et puis tu rentres dans la réforme, et puis tu entends. Moi, c'est ça qui m'a fait évoluer. Tu entends? Je dis, tout le monde ne doit pas être traité de la même manière. Ce que je dis là, c'est une question de bon sens. C'est pas un techno qui parle. Je dis, effectivement, tout à l'heure, on aura, je l'espère d'ailleurs, quelqu'un qui fait un marteau-piqueur. Vous n'allez pas lui demander de partir à 64 ans, quand même.
Valérie Pécresse, dans son programme, ne demandait pas la personne qui tenait le marteau-piqueur partir à 65.
Mais chaque profession mérite des ajustements différents. Vous ne pouvez pas dire tout le monde part à 64 ou 65 ans. C'est pour ça, d'ailleurs.
Qu'est-ce qu'il y en a 4 sur 10 qui ne partiront pas à 64 ans? 4 sur 10, c'est presque la moitié.
Bon, Monsieur Villedieu.
Ils ne partiront pas à 64 ans, mais ils partiront à 62, voire 63, c'est-à-dire au-dessus d'aujourd'hui. Et par exemple, vous prenez tout ce qui est vibration mécanique, c'est pas considéré comme métier pénible.
Mais ça
tout
le sera, par
Non, ça ne le sera pas.
Ah bon?
La seule chose qu'il y aura, c'est effectivement, vous aurez le droit à une visite médicale. Ouais. Et si vous êtes inapte, vous aurez la chance de pouvoir partir.
Vibration mécanique. Et les vibrations, j'ai vu hier qu'elles étaient dans la nouvelle...
Charge lourde, ce n'est pas considéré également comme... Et je vais aller encore plus loin. Alors on m'a dit, conducteur de train, ce n'est pas un métier pénible, donc vous n'avez pas le droit. Ok, pas de problème.
Conducteur de train, pénible, vous, par exemple?
Bah oui, se lever à 4h du matin pour tirer un train avec les tonnes de responsabilités. Parce que la difficulté qu'on a, c'est qu'à la fois, faut se lever tôt, voilà, voire se coucher tard. Oui. Et à la fois, vous avez des responsabilités de dingue. Enfin, vous avez deux, trois responsabilités quand vous conduisez un train. Voilà. Oui, on peut au moins
concevoir ça. Il y a une pression, je suis d'accord.
Voilà. Aujourd'hui, les nouveaux conducteurs sont ce qu'on appelle les conducteurs contractuels, donc ils sont au régime général de la sécurité sociale. Ils sont comme tout un chacun. Eh bien, eux, ils n'ont pas le droit à la pénibilité. Voilà. Pourquoi ? Parce que ce n'est pas un service posté. Et ils ne travaillent pas de nuit. Les seuls qui ont le droit, c'est les conducteurs de fret, ceux qui font des trains de marchandises, parce qu'ils ne travaillent que la nuit. Donc effectivement, ils ont le droit à avoir des points de pénibilité. Mais les conducteurs, les collègues à moi qui sont contractuels, qui sont... moi, je bosse sur la ligne D du RER.
Mais vous ne levez pas tous les jours à 4 heures.
Ils n'engrangent pas des points de pénibilité.
Vous ne levez pas tous les jours à 4 heures du matin.
Si vous voulez avoir votre train à 6 heures du matin, les gens ils travaillent à, ils prennent leur train à 6-7 heures du matin.
Parce que vous êtes
si
toujours vous dans le même horaire.
Si vous,
vous prenez toujours le train.
En gros, les gros moments de travail, c'est les pointes du matin et les pointes du soir. Si vous voulez que le train il arrive à 6 heures du matin, le conducteur il s'est levé à 4 heures.
Je pensais qu'il y avait un changement, qu'il y avait un roulement.
Il a préparé.
Vous ne travaillez pas 12 heures par jour. Si vous faites, vous faites soit le matin, soit le soir.
Oui.
Bon, voilà.
On n'est pas encore en temps d'escalade.
Bon, Jean-François.
Quoique vous avez raison, parce qu'aujourd'hui, le grand truc, c'est le travail en deux fois. Vous avez entendu parler. Notamment, ils font ça au niveau des chauffeurs de bus. C'est-à-dire, vous faites la pointe du matin, vous êtes en coupure, et vous refaites la pointe du soir, ce qui vous fait gagner un agent au lieu d'en avoir deux.
Bon, Jean-François Amadieu est avec nous, il est spécialiste des mouvements sociaux. Qu'est-ce qui, paraît-il, et vous allez me le confirmer ou pas, est tout à fait nouveau dans ces manifestations, c'est les villes petites ou les villes moyennes qui descendent dans la rue. La France périphérique, ça reprend évidemment le bouquin de Giuli et ça reprend les Gilets jaunes. Est-ce que c'est vrai ? Bonjour.
Oui, bonjour. Oui, c'est tout à fait vrai, évidemment. Factuellement, tout le monde a donné les chiffres dans les différentes petites villes. Donc, effectivement, c'est tout à fait caractéristique de ce qui se passe dans les manifestations. Je pense qu'on le verra aussi aujourd'hui. Vous savez quel est le... Enfin, il y a plusieurs explications. C'est très probablement déjà le fait que cette réforme va impacter, par exemple, des catégories d'âge qui sont relativement proches de la retraite ou 20 ans avant, et donc au fond, et des actifs évidemment. Et il se trouve que dans les villes concernées, on en trouve pas mal. Plus des gens du secteur public aussi qui sont là aussi très mobilisés parce que les retraites représentent le modèle social français et plus généralement, si vous voulez, la défense de nos services publics un peu partout, dans toutes les villes, eh bien, c'est important pour les gens.
Bon, moi, je suis frappé parce que dès que je parle à quelqu'un, il n'est pas favorable à cette retraite. Et par exemple, l'enseignement catholique fait grève. Est-ce que vous y voyez un marqueur ?
Pour l'enseignement catholique ?
C'est-à-dire que l'enseignement catholique ne fait jamais grève, l'enseignement privé ne fait jamais grève. Est-ce que pour vous, vous y voyez quelque chose de significatif ?
Non, mais je pense que là, il y a peut-être une dimension aussi, je dirais, de mobilisation locale pour d'autres sujets, peut-être que simplement la question des retraites. On peut aussi voir ça, soit pour l'ensemble des services publics locaux ou pour des questions de pouvoir d'achat aussi. Parce qu'il faut voir que dans la mobilisation actuelle, il n'y a pas que le sujet des retraites en réalité qui amène les gens à être dans la rue. C'est probablement aussi comme ça qu'on peut l'expliquer. Ça n'est pas qu'une mobilisation que sur le sujet des retraites qu'on observe actuellement, tout le monde.
Dernière chose, est-ce que l'expérience que vous avez vous permet d'avoir une intuition ou un pronostic, pourquoi pas, sur ce qui va se passer ces prochaines heures et ces prochains jours ? Si vous deviez, par exemple, faire un pronostic, est-ce que vous diriez « ça va passer et ça va passer en force » ? Est-ce que vous diriez « ça va coincer et ça ne passera pas » ? Ou est-ce que vous allez dire « je n'en sais rien » ?
Non, ce qu'on peut penser, c'est que les organisations syndicales vont pendant quelque temps réussir à conserver l'unité assez incroyable syndicale qui existe actuellement. Alors, ce sera compliqué localement, mais pour le moment, ça tient. Et surtout, le point de faiblesse pour les jours qui viennent paraître, le fait que les lycéens et les étudiants, pour l'instant, ne paraissent pas se mobiliser. On verra dans la journée s'il se passe quelque chose, mais pour l'instant, ça n'est pas le cas. En revanche, le point qui pourrait amener à mettre en difficulté l'exécutif, c'est le fait que nous sommes aujourd'hui dans une situation de grande vulnérabilité dans beaucoup de secteurs, par exemple sur la logistique, sur les transports, par exemple en Île-de-France. Vous savez que la situation des transports du métro est déjà très dégradée. Donc, si vous voulez, dans beaucoup de secteurs d'activité, il suffit de quelques arrêts de travail, vous n'avez pas besoin de taux de participation très important et vous avez un effet très important. On n'a jamais connu ça dans le passé, parce que dans le modèle traditionnel français, il fallait faire des grèves pendant plusieurs jours, massives, un peu partout, pour espérer avoir un résultat. Et encore, ça ne marchait pas à chaque fois, comme on l'a vu par exemple en 2010, ou même en 2019. Donc, dans le modèle traditionnel, il fallait faire beaucoup de jours de grève, et on sait que ça, c'est compliqué, parce que les gens, bah, ils ne veulent pas forcément perdre des journées qui vont être prélevées. Et, sauf que là, aujourd'hui, la donne est différente.
Bah, merci.
C'est ce qui s'est passé dans le transport aérien cet été, par exemple. Il suffit, vous voyez, de quelques grévistes pour que le système se bloque. Donc le coût, si vous voulez, les répercussions des arrêts de travail sont importantes. Donc pour faire un pronostic, je pense que si les organisations syndicales parviennent à maintenir d'un côté la popularité du mouvement, ça c'est un peu un enjeu, mais il est possible que les mobilisations se révèlent efficaces dans le contexte actuel.
Bah merci, merci de cette analyse, on va marquer une pause. Vous pouvez encore rester avec nous quelques minutes?
Après il faut que j'aille à mon assemblée générale. Hein,
mais... pardonnez-moi de poser cette question, mais vous y allez comment?
Bah, j'y vais en taxi.
Ah oui, oui.
C'est même vous qui payez d'ailleurs, je crois.
Ah bah, nous payons la grève, camarade.
Il a la question, il connaît la réponse, quoi.
Mais alors ça, c'est mon job de poser des questions auxquelles je fais ça tous les jours, poser des questions auxquelles je connais les réponses. Bon, merci en tout cas, et on essaye toujours de comprendre et d'avoir la position la meilleure d'une certaine manière autour de la table. À tout de suite. 9h32, on est un poil en retard, Audrey Berthaud.
L'économie française progresse et atteint 2,6% en 2022. Ce sont les chiffres de l'INSEE. Elle a cependant ralenti en fin d'année en raison de l'inflation. En 2022, le PIB a surtout bénéficié du rebond d'activité enregistré fin 2021 en sortie de crise sanitaire. La guerre en Ukraine et l'envoi d'avions de chasse. Emmanuel Macron n'interdit rien par principe. Ce sont ses mots hier pendant son déplacement aux Pays-Bas. Le président de la République réclame une demande formulée de l'Ukraine que cela ne soit pas escaladé et que les Ukrainiens ne s'en servent pas pour frapper le sol russe. Et puis le pape débute sa visite africaine. Il s'envole aujourd'hui pour Kinshasa en République démocratique du Congo. Le pays fait face à des violences. L'avion du pape doit atterrir en début d'après-midi. C'est la première étape d'un voyage qui le mènera ensuite au Soudan du Sud. Le pape devrait surtout appeler à faire taire les armes.
Fabien Villedieu est avec nous, il est représentant au Sudrail. Bon, c'est vrai que les discussions, on les a sur cette retraite et sur cette réforme en cours. Un mot sur le service d'ordre. La dernière fois, il n'y a pas eu d'incident. Est-ce à dire que les manifestations organisées par les syndicats, vous faites vous-même, j'allais dire, le ménage?
Ouais, j'aime pas trop cette expression, mais après, il faut attention de ne pas avoir une vision très parisienne. Hein. C'est-à-dire que là où il y a un peu de débordement, c'est généralement un petit peu Paris, et voir les grandes villes. Mais en vrai, sur les, je crois, on recense 240 manifestations nationalement aujourd'hui, tout se passe très très bien. Et y compris à Paris, en fait, il peut y avoir un peu d'agitation devant, mais finalement, vu que les gens ils sont derrière dans la manif, ils s'en rendent même pas compte. D'ailleurs, ils voient, la dernière fois, on voyait d'ailleurs les manifestants témoigner, ils disent « oui, on a entendu dire qu'il y avait eu un petit peu d'échauffourée, mais nous, ça s'est très bien passé ». Enfin, venez en manif, quoi, faut pas faire peur aux gens, les manifs sont très sympas, il y a une ambiance de dingue, moi je vous le dis, hein, j'ai une énergie dans ces manifestations, c'est un peu comme un concert, hein, une manifestation, quand vous arrivez, ça vous recharge les batteries, hein, voilà. Donc venez aux manifestations, et puis d'abord ça fait du bien, c'est sympa, j'ai vu, il y a des gens qui viennent avec des enfants, en famille, Il y a des retraités. Voilà, faut pas qu'on. Faut faire attention parce que des fois, il peut y avoir une personne qui brûle une poubelle, ça passe en boucle. Il y a l'impression qu'il y a un million de personnes dans la rue.
Oui, quoi. On voit les banques parfois qui sont attaquées, etc. Et puis l'autre chose qui m'intéresse maintenant, ces manifestations, et vous allez me dire si j'ai raison ou pas, j'ai l'impression que la banlieue n'est pas présente. J'ai l'impression, parfois, alors l'expression, elle n'est pas terrible, et je l'ai utilisée vendredi déjà, mais j'ai l'impression que c'est des manifestations de petits blancs, que je ne vois pas la représentation des jeunes de banlieue présents, etc. Et notamment, est-ce que je me trompe dans...
Oui, bah écoutez, moi, vous savez, la SNCF, elle avait une politique où on embauche les gens qu'on transporte. Voilà. Oui. C'est très black-blondeur, la SNCF. Hein. Oui. Ben, ils sont en grève aux assemblées générales, ils viennent aux manifestations. Voilà, parce que souvent, les métiers pénibles, il faut dire ce qui est, hein, ça a été souvent...
Bien sûr, dans les mais justement, c'est, je trouve ça paradoxal, pour tout vous dire.
Qui les femmes de ménage, c'est les gens des banlieues non, mais qui seraient concernés.
Je trouve ça paradoxal.
Justement, c'est-à-dire qu'on voit bien que c'est les syndicats, pardon, et les syndicats d'abord, que c'est pas l'intersectionnalité des luttes, pardonnez-moi de ce mot affreux, c'est l'intersectionnalité des luttes, c'est-à-dire que les jeunes, pour l'instant, ne sont pas rentrés dans le cortège. Les jeunes de banlieue ne sont pas rentrés dans les cortèges.
Je pensais aux jeunes de banlieue.
Les syndicats. Et d'ailleurs, comme Pascal Praud l'a rappelé, le fait que l'enseignement catholique est appelé à la grève est aussi un signe qu'il s'agit d'un mouvement social qui n'est pas comme les autres. Voilà.
Bon, ben, on va vous remercier, Fabien Villedieu, puisque vous allez donc à l'Assemblée générale. Je vous ai dit hier, j'aimerais bien aller dans cette Assemblée générale et interroger les uns et les autres. Vous m'avez dit, bon, c'est...
C'est une assemblée générale de grévistes. Hein. Faudra vous mettre en grève.
C'est jouable. Non, mais c'est... Non, mais
vous mettre en grève. Bon, c'est... Je suis pas sûr qu'il soit content à CNews. Hein.
Ah ben non, vous avez tort. Je pense que la preuve, c'est que vous venez. Vous étiez hier chez Laurence Ferrari. Vous êtes aujourd'hui présent sur ce plateau. Évidemment, tout ce que d'abord tout s'entend. Bien sûr, faut entendre tout le monde. Mais surtout, ce que vous dites s'entend. C'est surtout ça que je retiens. Et d'ailleurs, on va être dans quelques instants. Je crois qu'Anthony Bonnard, qui est maçon, vous pouvez rester si vous voulez quelques instants avec nous. Monsieur Bonnard, est-ce que vous êtes avec nous ?
Oui, je suis là.
Alors, ça, vraiment, j'avais envie d'entendre des témoignages de gens qui font des métiers dits pénibles. Monsieur Bonnard, vous avez quel âge ?
J'ai 32 ans.
Vous avez 32 ans. Vous êtes maçon, mais également vous maniez le marteau-piqueur, m'a-t-on dit ?
Oui, souvent.
Souvent.
Des marteaux-piqueurs qui vont de 5 kg jusqu'à 20 kg plus gros.
Bon, ce marteau-piqueur, et c'est ça qui m'a étonné tout à l'heure, Fabien Villedieu disait qu'il n'entre pas dans des métiers dits pénibles.
Oh oui, je ne sais pas dans ces cas-là ce que veut dire le mot pénible.
Il n'entre pas dans les critères pénibles. Alors, est-ce que, par exemple, votre cas, vous avez commencé à travailler à quel âge, Monsieur Bonnard ?
J'ai commencé mon apprentissage à 16 ans.
Vous entreriez a priori dans les carrières longues.
Oui, c'est ça. Ça fait déjà 16 ans que je suis maçon et c'est ce que je disais. Déjà, je commence à sentir un peu les douleurs au niveau du dos, des épaules, dû au marteau-piqueur justement et aux charges lourdes.
Bon, vous travaillez sans discontinuer depuis 16 ans ?
J'ai dû arrêter un petit peu, on va dire peut-être 3-4 mois, mais pas plus.
Bon, vous êtes salarié dans une entreprise ?
Oui, c'est ça.
Est-ce que c'est indiscret de vous demander votre salaire mensuel ?
Je suis à 1800 euros net par mois.
Bon. Et a priori, ce salaire, il va évoluer dans les prochaines années ou est-ce qu'il est plutôt bloqué lorsqu'on est maçon ?
Bon, j'ai envie de dire, ça fait peut-être 10 ans que j'entends ça, que le salaire va augmenter. Je vois que pour moi, il n'y a rien qu'à augmenter. J'ai eu 200 euros de plus en... En cinq ans, quoi, c'est tout.
Est-ce que vous avez le sentiment que votre vie aujourd'hui, sur le plan économique, est plus difficile qu'elle ne l'était il y a 5 ans ou il y a 10 ans ?
Oh oui, complètement. Complètement. Au jour d'aujourd'hui, j'arrive même pas à finir les fins de mois. C'est vraiment très compliqué.
Est-ce que vous savez quand est-ce que vous arrêtez de travailler ou est-ce que vous arrivez à vous projeter ? Vous avez 32 ans, vous êtes jeune, vous dites « je suis déjà fatigué » et on le saurait à moins. Est-ce que vous imaginez encore faire ce que vous faites pendant 30 ans ?
Ah non, c'est sûr que non. De toute façon, je sais très bien que mon corps ne supportera plus. Je vous dis déjà à 32 ans, j'ai déjà des douleurs aux épaules. des fois, dure que pendant des semaines. Tu es obligé d'aller voir des toucheurs, des ostéopathes. Donc, je pense que pour moi, je passe encore les 15 ans maximum. Et puis après, je pense qu'il va falloir que je change de métier ou je sais pas.
Mais qu'est-ce que vous ferez après ?
L'avenir ? Je sais pas, malheureusement. Je connais mon métier, j'adore mon métier. C'est une passion, mais c'est par rapport au métier qu'on fait, je pense que déjà le salaire, il suit pas du tout. Quoi.
Et l'entreprise dans laquelle vous êtes, elle gagne de l'argent ?
Oui.
Et quand vous avez un échange avec votre patron, que vous lui dites je gagne pas assez, c'est difficile pour moi, il a aussi intérêt à ce que vous alliez bien. Et donc il a intérêt à ce que... Alors je ne sais pas si vous êtes marié, si vous avez des enfants, si votre femme travaille, si vous avez des aides aussi, parce qu'il faut savoir si vous recevez des aides sociales. Est-ce qu'avec ces 1800 euros nets, vous recevez des aides sociales ?
Ah non, je touche apparemment trop. Trop, alors que j'ai 3 enfants, j'ai ma femme qui est à la maison, qui garde le petit pour l'emmener à l'école, à la cantine et tout. Donc je veux dire que 1800 euros, c'est, on a 600 euros d'aide en plus, c'est tout.
Combien vous avez dit ? J'ai pas entendu.
600. Avec 600 euros d'aide.
Vous avez 600 euros d'aide sociale, ce qui est d'ailleurs parce que vous avez 3 enfants.
C'est ça, parce qu'on a 3 enfants.
Donc vous avez... est-ce que je peux... Pardonnez-moi, je vous pose des questions qui sont indiscrètes, mais qui permettent effectivement d'évaluer chaque cas. Est-ce que vous êtes imposé sur le revenu ?
Non, je n'ai pas été imposé. Enfin, pas l'année dernière, du coup.
Donc vous avez 1800, vous avez 2400 euros net par mois, multiplié par 12, pour vivre à 5 aujourd'hui. Et effectivement... j'imagine que vous ne faites pas, non seulement vous ne faites pas de folie, mais vous avez peut-être du mal à finir les fins de mois. Je voulais vous poser une question également simple. Dans les loisirs que vous avez aujourd'hui, est-ce que par exemple, l'année dernière, vous avez pris des vacances ?
Non, je n'ai pas pu malheureusement. Je n'ai pas pu, j'ai un loyer de 800 euros, on paye l'électricité de 300 euros par mois, les cantines de tous les enfants, l'essence pour le gasoil pour aller au travail et tout. Je dis tous les fins de mois, c'est vraiment très compliqué.
Je trouve évidemment passionnant et très intéressant ce que vous dites. Et je trouve que ces exemples-là devraient être plus médiatisés. Parce que ça permet aussi de savoir dans quelle société on a tous envie de vivre. Et que vous travaillez, que vous aimez votre travail, vous le dites, que vous bossez depuis l'âge de 16 ans... et que vous êtes dans une situation financière qui n'est pas la plus confortable et qui pourrait sans doute être améliorée. Alors, je n'ai pas forcément les solutions, mais je vous remercie en tout cas de votre sincérité, de votre authenticité. Je ne sais pas si Fabien Villedieu a quelque chose à dire, parce que c'est toujours facile autour d'une table, lorsqu'on fait parfois les métiers que nous faisons, de juger de loin et de dire comment font les autres pays ? Mais là, vous avez quelqu'un qui a 32 ans, qui est en pleine santé et qui dit dans 10 ans, je ne pourrais plus faire ce que je fais aujourd'hui alors que j'aime mon métier. Et c'est une réalité. Cette réalité, il faut l'entendre.
C'est ça, la France. Voilà. C'est ça, la France qui travaille dans des métiers pénibles. Voilà, les bâtiments, tout ce qui est travaux publics, ça demande, c'est des métiers excessivement pénibles. La vibration mécanique, alors je n'ai pas dit que ce n'était pas pénible. J'ai dit que ce n'était pas reconnu en tant que critère de pénibilité. Et effectivement, et c'est finalement l'énergie de la mobilisation. C'est que, je pense que le monsieur, il ne se voit pas faire ça à 64 ans. Il faut arrêter de dire ça. C'est pas
mais
vrai. Bien sûr, on ne peut pas faire ça à 64
mais
ans.
Mais bien sûr, voilà. Je suis d'accord avec vous.
Et donc, si vous avez la possibilité, je sais que c'est pas facile, surtout quand on a des salaires qui sont pas si élevés que ça, venez au moins essayer de venir à la manifestation et on va gagner, pour vous, pour nous.
Vous
et
recrutez en direct.
Pour vos 3 enfants, parce que c'est aussi l'avenir de nos enfants.
Mais j'entends,
une de mes motivations, c'est l'avenir de mes enfants. Voilà. Il est hors de question que je me dise, moi, j'aurais peut-être une retraite à peu près correcte, et tant pis pour les gosses. Enfin, c'est quand même dingue. On passe notre temps à se dire, il faut que les enfants, ils mangent bien. Il faut qu'ils aient une planète meilleure, moins polluée. Par contre, sur les retraites, on s'en fout. Nous, on sera peut-être un peu moins touchés que les autres. Et puis, les jeunes générations, ils ont bossé jusqu'à 70 ans, parce que je vous signale qu'en Europe, le modèle, aujourd'hui, c'est 70 ans.
Monsieur Bonnard, vous êtes dans le secteur privé, bien sûr. Est-ce que vous êtes en grève aujourd'hui ?
Non, je pourrais, j'y aurais été, mais malheureusement, une journée en moins sur mon salaire, c'est pas possible. J'ai été déjà la semaine dernière, il y a 15 jours, et du coup, c'est 80 euros en moins sur le salaire que je je peux pas me permettre de faire ça tous les mois.
Vous m'avez, avant, quand on a préparé l'émission, vous avez dit je voudrais vous montrer ce qu'est mon travail de marteau-piqueur. Et vous montrer combien ça peut être pénible. Alors, je ne sais pas si on peut le voir à l'écran ou si vous pouvez nous montrer précisément de quoi il s'agit. Je ne sais pas si vous avez la possibilité de le faire ou pas.
Oui, je vais vous faire montrer un petit exemple. Du coup, je vais le mettre en route. Je vais juste donner le téléphone à mon collègue pour qu'il filme. Parce qu'avec le téléphone, ce n'est pas évident. Il faut les deux mains. Il fait 20 kilos, comme je vous ai dit. Donc, vous voulez que je vous fasse montrer ?
Oui, je vous en prie, et on va vous suivre évidemment et regarder ça. C'est vrai que les cas concrets sont finalement les plus intéressants, c'est ce qui nous permet, et ce qui est intéressant dans ce que dit M. Bonnard, c'est qu'il n'est pas, pas malheureux de faire ce qu'il fait. Il dit « j'aime mon métier ». Voilà, j'aime mon métier, j'ai envie de le faire, je le fais depuis l'âge de 16 ans. Bien évidemment, on ne va pas faire de misérabilisme du tout, ce n'est pas du tout le sujet. Il est, c'est important, d'ailleurs c'est très important d'aimer son métier, et lui c'est le cas. Alors, voyons. Bon, chacun effectivement a vu ces scènes qui existent, on a tous vu effectivement dans la rue des scènes de marteau-piqueur. Et effectivement, on s'est tous dit, ben, c'est pas un métier parmi les plus faciles. Je vais remercier Monsieur Bonnard. Je pense qu'il va pouvoir reprendre. Il va pouvoir reprendre d'abord le chantier, et je vais le remercier vraiment de son témoignage, parce que je pense que ce sont des témoignages qui sont qui en disent beaucoup plus finalement. Que tout ce que j'entends depuis des semaines par, j'allais dire, les petits hommes gris qui défilent sur les plateaux de télévision. Je voulais vous remercier, M. Bonnard. M. Bonnard, il est là, il m'entend ? Est-ce qu'il m'entend ? Non, il ne m'entend plus. En tout cas, je voulais le remercier et vraiment d'avoir donné ces informations-là et ces précisions-là d'une réalité française. On devine, mais c'est toujours bien d'entendre précisément au quotidien les choses. Et puis après, projetez-vous, dites-vous comment moi je vivrais avec 2400 euros par mois, ce que je pourrais faire par rapport à la vie que j'ai, etc. Et je ne veux pas faire de misérabilisme du tout, hein, ce n'est pas du tout mon état d'esprit. Merci, Monsieur Bonnard.
Je vous en prie.
Ben non, vraiment, hein, merci. Vraiment, merci beaucoup. Fabien Villedieu.
Bah moi, je voulais vous remercier d'avoir montré justement ces collègues, hein, parce que on les voit jamais en fait, hein, dans les reportages.
Exact, ouais, hein.
Les gens qui bossent dans le bâtiment, les gens qui bossent dans la restauration, tous ces métiers qui sont des pénibles. Voilà, il faut les montrer parce que c'est aussi ça. Enfin, des fois, on arrive, il y a de la lumière, tout est propre. Bah oui, mais tout ça, c'est des travailleurs qui ont bossé et qui sont souvent levés tôt, qui ont des métiers. Par ailleurs, bon, c'est quelqu'un qui bosse souvent au milieu extérieur, hein, parce que non seulement c'est physique, mais souvent vous retrouvez à l'extérieur, donc ça veut dire qu'il fait très chaud l'été et il fait très froid l'hiver. Voilà. Eh ben, bon, en tout cas, je vous remercie parce qu'on voit pas souvent des reportages sur des travailleurs comme ça.
En tout cas, c'est bien d'entendre les uns et les autres en longueur, me semble-t-il. Merci. Bonne assemblée générale à vous. Je voulais qu'on écoute peut-être qu'on fasse un point politique, parce qu'on a peu parlé politique, et on va écouter Emmanuel Macron hier, ce qu'il a dit à La Haye. Et effectivement, l'argument, qui est un argument, je trouve, d'autorité, d'ailleurs les autres le font, donc je vais le faire. Emmanuel Macron.
Je pense qu'il ne faut jamais oublier de dire que cette réforme, elle est indispensable quand on se compare en Europe et quand on regarde la nécessité que nous avons collectivement de préserver et sauver notre système de retraite par répartition. Et vous comprendrez bien que ce n'est pas depuis les Pays-Bas que je vais vous donner un commentaire sur ce que la Première ministre dit. Quand elle dit quelque chose, elle le dit avec des bonnes raisons et je la soutiens.
Il y avait également la citation de Mme Borne qui disait que c'était un négociable les 64 ans. Donc c'est bien pour les gens qui sont dans la rue aujourd'hui. Et puis il y avait la bataille parlementaire qui a commencé hier. Donc on va avoir quelques échanges de ce qui s'est passé dans cette commission où c'était déjà chaud.
Première étape,
s'il vous plaît,
d'un parcours parlementaire.
On ouvre les chakras et on se tait.
Agité.
Début des discussions hier autour de la disparition progressive des régimes spéciaux. Le ton est donné.
Vous choisissez ce moment pour inoculer le virus de la rage sur le statut des électriciens gaziers. Alors après, si on vous coupe le jus aux 3 heures dans vos permanences, je ne veux pas vous entendre pleurer.
Et les échanges se sont intensifiés.
Vous êtes des extrémistes. Si ça déborde dans la rue, ça sera parce que vous ajoutez de la colère à la colère en permanence.
Vous rêvez de scènes insurrectionnelles. Vous rêvez de chaos. Vous rêvez que l'Assemblée nationale se transforme en ZAD. Et ça, c'est inacceptable.
Le texte arrivera dans l'hémicycle le 6 février prochain. Pour être adopté, il devra recueillir 289 voix. Pour cela, le gouvernement s'appuie sur ses 250 députés et les 62 élus, les Républicains. Or, une trentaine de ces parlementaires se sont déjà dit prêts à voter contre.
Gauthier Lebret.
Oui, alors Elisabeth Borne, hier, elle était devant le parti Renaissance, les cadres de sa majorité, et elle a demandé, je la cite, à ses cadres, à la majorité, de se rendre dans les médias et de faire preuve d'empathie et d'écoute. C'était pas vraiment les maîtres mots du week-end.
C'est drôle parce que tout le monde a souri sur ce plateau.
Voilà. Immédiatement. Je savais que ça allait vous faire sourire. Mais oui, effectivement, après les triples interviews d'Elisabeth Borne,
bordélisée.
Elle est inflexible sur les 64 ans. Bruno Le Maire qui fait la liste de toutes.
Ah, mais Bruno Le Maire, il est vice-président. Hein.
Oui, alors il roule peut-être un peu pour lui. D'ailleurs, comme Gérald Darmanin. Les deux ont des calendriers personnels.
Il est vice-président et vice-premier ministre désormais.
Gérald Darmanin aussi, quand il parle de bordélisation du pays. Alors c'est aussi un message, vous savez, pour les Républicains.
Oui, mais lui, si vous me permettez, Darmanin, il est en communication, il est meilleur. Parce qu'il remet le truc sur le travail. C'est le travail et la paresse. Donc au moins, ça mérite d'être clair
mais
pour les gens.
Mais ça peut aussi fâcher les manifestants.
En fait, il fait de la politique. Il fait du sarkozisme. Voilà, pareil.
Il fait pareil,
je trouve que c'est plutôt habile.
Il veut cliver, il veut dire le parti de la bordélisation, c'est la NUPES.
Oui.
Les Républicains, vous n'allez quand même pas en faire partie.
Oui.
Vous allez voter avec nous cette réforme, mais vous n'allez pas bordéliser le pays,
la NUPES. Il est meilleur en com. Il est meilleur.
Oui, sauf qu'il oublie que dans la rue, il y a des gens qui, en effet, travaillent. Juste accessoirement, mais évidemment que le droit à la paresse de Sandrine Rousseau, c'est même pas marginal, il faudrait inventer un mot. C'est-à-dire que dans le gros des manifestants, ce qui fait le soutien notamment populaire à cette manifestation, franchement, on redécouvre la lune, c'est-à-dire que c'est la ressucée des gilets jaunes, en fait. Si vous voulez comprendre de plus que ça, c'est-à-dire que c'est dans les villes moyennes, ce sont des gens qui, à l'époque, disaient « on travaille, on vit mal de notre travail, par ailleurs, l'État a disparu de nos vies ». Où passe l'argent public? C'est même pas la question de l'argent qui est devenu magique. Ça, c'est vrai. On a vu pendant le Covid, il y a de l'argent partout, subitement, alors qu'il n'y en avait plus. Mais surtout, à quoi sert cet argent? Comment est-il dépensé? Cette question-là est restée sans réponse. On l'a gérée comme une question de maintien de l'ordre. Et ben, ces gens-là sont à nouveau dans la rue. Ils disent, nous, 2 ans de plus, ça va. On va peut-être régler d'autres problèmes avant ça.
Quand on voit que dans un grand entretien dans le JDD, monsieur le maire, vice-président, comme vous l'avez rappelé, et vice-premier ministre dit mais il faut lutter contre la dette publique. Il faut que vous ayez conscience qu'il y a
3 000 milliards.
Voilà, 3 milliards.
Moi, j'ai quelques idées pour lui, si ça l'intéresse.
Vous demandez.
Il vient me voir.
Vous ne rêvez pas.
J'ai plein d'idées.
Voilà, ce sont évidemment les mêmes qui parlent du déficit des retraites et évidemment sur
la dette. On va marquer une pause. Il y a des choses essentielles aujourd'hui à évoquer. La folie des chats. Voilà, on va recevoir Claude Beata, la folie des chats.
Ça rejoint l'actu de la SNCF.
Mais pour ça qu'il vient. Non mais vous me prenez pour un... Évidemment qu'on l'a invité parce qu'il y a la SNCF, la folie des chats. Bien sûr, ça c'est bien plus important que le reste. Et la préface est de Boris Cyrulnik. Et d'ailleurs, j'ai reçu plein de messages, notamment Luc Ferry m'a même envoyé une photo de son chat. Qui est sublime, très beau chat. Donc, les gens ont été touchés par cette histoire. Bien sûr, vous seriez, parce que vous n'aimez pas les bêtes. Mais bon, et qui n'aime pas les hommes, qui n'aime pas les bêtes, n'aime pas les hommes, monsieur.
J'adore les bêtes.
C'est bien. Dans une seconde. Et puis, on parlera un peu étranger, quand même. On parlera un peu. Je vais te réveiller, Vincent Herbouat. Hein? Comment? Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Bon, hein? On dit pas, hein, franchement. Un garçon de la grande bourgeoisie comme.
Non, mais franchement.
Un garçon de la grande bourgeoisie comme vous, qui a été élevé, quand même, avec une cuillère qui était. En platine plus encore qu'en argent. On dit pas un. On dit pas un. Bon, à tout de suite. Claude Beata est avec nous. Bonjour et merci.
Bonjour.
Je vous ai demandé de venir, malgré cette actualité lourde, la folie des chats. Et vous êtes venu spécialement pour nous, parce que vous habitez Toulon. Donc vous êtes parti il y a une dizaine de jours.
Non. Très quitté à l'heure.
Non, vous avez pris le chemin de fer hier soir et il n'y avait donc pas de soucis.
Il était bien plein.
J'imagine. Et vous repartez en revanche demain.
Je repars que demain.
Parce que là, vous ne pouvez pas repartir ce soir.
J'étais prudent, on va dire.
Bon, et Boris Cyrulnik a fait cette préface et ça nous intéresse parce que j'ai été frappé dans l'affaire du petit chat d'une différence que je voyais entre guillemets les élites représentés autour de cette table, qui ont dit bah oui, le train devait partir, écraser le petit chat, etc. Mmh, mmh. Et puis ce que j'entendais, moi qui suis avec les vrais gens, comme vous le savez, ce que j'entendais, entre guillemets, sur le terrain. Alors sur le terrain, c'est quoi? C'est les membres de ma famille, c'est des enfants, c'est des amis, etc., qui ont été incroyablement choqués. Alors que Gérard Leclerc, il dit bah, le train, il doit écraser le chat. Voilà ce qu'il dit. C'est vrai.
Hein. Genre,
non mais c'est vrai. Mais non mais bon, bon. Mais non mais c'est vrai. Vous avez dit le train devait partir. Le train devait partir. C'est ce que vous avez dit.
J'ai dit ça. Je le regrette. Je le regrette à moitié.
C'est ah oui, vous avez honte. C'est bien.
Non, oui, bon. c'est un vrai sujet.
Audrey Berthaud.
On sait comment fonctionne la SNCF et que voilà.
Non non mais c'est très intéressant cette affaire du retard. Et vous allez nous expliquer. Mais Audrey Berthaud nous dit évidemment nous rappelle les infos et les infos c'est la grève ce matin.
Eh oui, journée de grève massive, vous le savez, particulièrement dans les transports. Justement, on va voir ensemble les prévisions. Regardez, pour la SNCF, il y aura 2 TGV sur 5 sur l'axe nord, 1 TGV sur 2 sur l'axe est et sud-est, 1 TGV sur 4 sur l'axe atlantique, 2 Ouigo sur 5. Et si vous prenez le métro ce matin, les lignes 1 et 14 fonctionneront normalement. En revanche, pour les autres, le trafic est fortement perturbé. Et pour les RER, comptez 1 RER A et B sur 3, 1 RER C, D et E sur 10. Et puis forte mobilisation également dans les raffineries et dépôts de carburant de Total Énergie. Aujourd'hui, il y a 75 à 100% de grévistes. Les agents d'EDF ont aussi procédé à des baisses de charges équivalent à 3 réacteurs nucléaires. Enfin, regardez cette image. Une comète visible à l'œil nu. Elle atteindra son point le plus proche de la Terre demain. La comète a été repérée par des scientifiques il y a environ un an. Ce qui la rend exceptionnelle, vous le voyez, c'est cette couleur verte. On ne pourra pas la revoir avant des milliers d'années.
J'ai souvent parlé ces derniers jours de Lilou et Gribouille, qui sont les deux chats de ma fiancée, que je salue d'ailleurs parce qu'ils m'écoutent, ces deux chats, tous les matins. Bon. Et non, mais je souris, mais ma fiancée m'a dit les chats font partie de la famille.
Bien sûr. D'ailleurs, dans les cliniques vétérinaires, les fiches des animaux, il y a le nom de l'animal et le nom de famille. Ils font partie du groupe, ce qui ne veut pas dire du tout qu'il y a une confusion d'espèces. Ouais. Mmh. Mais cette histoire, elle est quand même très spectaculaire dans la mesure où elle parle de l'attention aux autres. Parce que Baptiste Morisot, qui est un philosophe de l'animal, parle de l'attention politique aux autres. Et pour le coup, on n'est finalement pas si loin du reste. Est-ce qu'on fait attention aux autres êtres vivants qui vivent avec nous? Aux êtres dont maintenant il y a un consensus pour dire qu'ils sont conscients et qu'ils ont une intelligence. Comment on peut décider de faire repartir ce train si on considère que c'est un être conscient qui est dessous? Si on considère que c'est un objet, ce qui a été l'animal pendant très longtemps, alors on fait partir le train parce que les impératifs économiques des 600 personnes dans le train valent beaucoup plus que ça. Mais si on est d'accord sur le fait que c'est un être conscient qui est dessous, qui a peur, qui a des émotions, et qui vit dans un groupe qui partage ses émotions, comment on peut faire partir ce train? D'accord, c'est pas possible. Ça m'a particulièrement touché parce qu'il y a 25 ans, mon chien a eu très peur de l'orage, il s'est échappé, il s'est caché sous un train à Toulon, sur la voie numéro 1, et quelqu'un a vu le chien et a dit « Ne faites pas partir le train, il y a un chien dessous », et la SNCF n'a pas fait partir le train, et on a récupéré le chien.
Si vous voulez, et ça, c'est très intéressant ce que vous dites, parce que c'est la discussion qu'on a tous eu parfois en famille, et je vais citer une nouvelle fois ma fiancée, elle m'a dit « Il y a 25 ans, le train ne serait pas parti,
bien sûr,
précisément, et que le monde a changé ». Et elle faisait presque un parallèle entre la retraite et le chat. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, une seule chose compte, la rentabilité dans ce monde-là.
Moi, ça m'a paru très étonnant. Alors après, c'est peut-être aussi personne dépendant. On dit la SNCF Je ne suis pas sûr que le PDG de la SNCF ait dit « faites partir le train hein, ».
Vu l'ampleur que ça a pris, à mon avis...
Mais c'est un système. Qu'en pensez-vous, Charlotte ?
Non, mais moi, je pense qu'il y a 25 ans, vous savez pourquoi le train ne partait pas ? Parce qu'il y a quelqu'un qui s'allongeait et qui attrapait le chien. Là, aujourd'hui, il y a 14 protocoles de sécurité pour aller récupérer le chat. Et donc, 3 jours avant de refaire partir un train. Donc, on est tous devenus fous, ça, c'est sûr, sur la question de... Et qui va prendre la décision d'aller chercher le chat ? Imaginez quelqu'un s'électrocute ou que quelqu'un descende du train au moment où le train a bougé pour aller récupérer le chat. C'est donc, le protocole a rendu la chose impossible. Donc, on avait une relation plus naturelle au chat, au train, à la sécurité, au départ. Ça, je suis absolument d'accord. Moi, la question qui se pose, c'est l'ampleur qu'a pris cette histoire et la question... Parce que, en fait, dans cette histoire de SNCF, il y a en effet la question que se pose le responsable SNCF qui décide de faire partir le train. Il y a la réaction de tous les gens qui pensent à leur propre animal de compagnie à ce moment-là, d'accord. Et il y a la réaction du ministre de l'Intérieur dans un pays tel qu'il est aujourd'hui, notamment sur la question globale de l'insécurité qui touche directement Gérald Darmanin et qui nous fait une communication. Mais alors là, franchement, j'ai pas compris, moi.
Il visitait une SPA.
Vous n'avez pas compris qu'ils disent qu'il avait été choqué par l'attitude?
Non, pas qu'ils disent qu'il a été choqué. Qu'il arrive encadré par un général avec toutes ses étoiles, le préfet, le machin, qui nous explique qu'il y aura désormais un référent dans chaque commissariat. Enfin, je veux dire, un référent dans chaque commissariat, il faut comprendre que ce n'est que de la com. Il y a des référents sur tout, partout, dans tous les commissariats. Ils ont chacun 700 dossiers. Donc, les dossiers vont s'ajouter aux dossiers. Tout sera prioritaire. Résultat, rien ne le sera. Vous pensez bien que si vous vous faites cambrioler et que les policiers vous disent, vous savez, on n'a plus les moyens de chercher un cambrioleur, vous vous faites agresser dans le métro, on n'a plus les moyens de chercher l'agresseur, vous pensez bien que celui qui maltraite le chat, et je pense que vraiment ça dénote une déformation de l'intelligence élémentaire, de l'empathie même, d'aller maltraiter un animal. Je pense vraiment que c'est un problème qui est plus grave que la question de l'animal lui-même, même pour la société. Simplement, il n'y aura aucune conséquence à ça, si ce n'est des dossiers de plus sur le bureau des policiers.
Là encore, si je peux me permettre, je ne suis pas tout à fait d'accord avec vous, dans la mesure où, par exemple, il y a pas mal d'études aujourd'hui qui montrent qu'il y a une corrélation entre maltraitance animale et violence familiale.
C'est exactement ce que je viens de dire.
Bien sûr, vous avez raison, c'est qu'on est violent, on est violent.
Et donc, si la
ce que je viens de dire un jour.
Oui, non, je suis d'accord avec vous.
Vous êtes d'accord avec
moi. Non, mais vous dites qu'ils ne pourront pas les traiter. Je ne suis pas d'accord. Si la porte d'entrée de la plainte, c'est la maltraitance animale, peut-être qu'ils découvriront autre chose.
Non, attendez, la porte d'entrée, c'est-à-dire que quelqu'un qui est violent, qui maltraite, qui torture un animal est capable d'être violent par ailleurs, mais ce n'est pas la porte d'entrée. On a déjà une société ultra-violente envers les personnes aujourd'hui et les policiers sont déjà dépassés. Donc ce que je veux vous dire, ce n'est pas que les policiers ne voudront pas, ils ne pourront pas. Aujourd'hui, il y a des centaines de dossiers qui sont classés sans suite parce que les policiers ne peuvent pas. Ce n'est pas qu'ils ne veulent pas, ce n'est pas que par principe on n'a pas envie de le faire. C'est juste c'est de la pure com et ça va encore peser sur le dos des policiers qui sont déjà...
On parlera évidemment de votre livre tout à l'heure, comme on reviendra sans doute sur la galère et notamment la peur des commerçants, je le dis pour Marine Lançon, parce que ça peut effectivement inquiéter les commerçants, d'autant que le secteur est plus difficile à sécuriser. La manifestation passera par Montparnasse, avec des endroits symboliques sur le boulevard Montparnasse, et ça peut être une source de violence. Simplement deux ou trois choses avec notre ami Vincent Hervouet. D'abord, vous connaissez évidemment bien comment fonctionnent les pays du monde entier en tant que journaliste politique étrangère. En Suède, par exemple, la retraite a été mise en place à 65 ans, il y a 20 ans.
Oui, ça, il y a le recul en Suède.
Quelles sont les conséquences ?
Pour avoir la retraite à taux plein, il faut attendre 65 ans. Or, en fait, la plupart des Suédois partent à 62 ans parce qu'ils ne supportent plus non plus la capacité à soutenir le rythme et à supporter leur travail. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que statistiquement, on réalise que 72% des Suédois et 92% des Suédoises vivent, quand ils sont retraités, dans la précarité. Ouais. C'est juste. C'est-à-dire que retarder l'âge de la retraite, c'est condamner la plupart des retraités à vivre comme tout à l'heure.
C'est évident que, moi j'ai dit, les pensions vont baisser mécaniquement, je le dis, depuis des jours et des jours. Donc,
c'est justement pour éviter ça qu'on retarde l'âge de la retraite. Vous faites rire.
Mais ils ne travailleront plus.
On en vient toujours.
Ils ne travailleront plus.
Le système de répartition. Non, Gérard, vous avez des actifs qui travaillent pour les retraités.
Vous voulez pas donner un chat, Gérard Leclerc.
Si vous avez moins d'actifs au travail, vous avez moins de pension. Alors, on peut trouver un autre système.
Laissez terminer notre ami Vincent Hervouet. Mais non, mais on a eu. Bon. Bon, non, en tout cas,
l'exemple suédois est quand même super important parce que quand même, ils ont été les premiers et on voit, comme Vincent le rappelle, une paupérisation en effet, une paupérisation extrême,
de voir le monde réel.
Donc, il y a quand même un problème.
De voir le monde alentour.
On ne peut pas évidemment faire cette réforme si d'un côté, on ne prévoit pas évidemment le fait que les gens puissent travailler jusqu'à 64 ans. Or, on a mis la charrue avant les bœufs. Je suis désolé.
Bon, ce qui est intéressant, c'est et non, mais tout le monde comprend ça puisque tu ne peux pas faire une carrière jusqu'à 65 ans. Donc, à part les seniors sont virés parfois dès 55 ans. Donc, ils seront ou au chômage, en tout cas, ils ne cotiseront plus.
Non, bon. Et mécaniquement, en Suède, les gens peuvent partir à 62 ans avec une retraite moindre. Bon, et enfin, de plus en plus choisissent ça. C'est pas parce qu'ils sont virés dans
l'entreprise. Bon, Gérard, voilà, c'est le cas, on a 20 ans de retard, ça ne marche pas. Bon, alors, sauf pour vous, ça marche. Mais c'est d'où ? Ça marche pas.
Tous les pays, il n'y a pas de pays, il n'y a aucun. Citez-moi un pays dans le monde.
Citez-moi un. La funécisation de Pascal Pro.
Quoi ?
La funécisation de Pascal Pro. Mais non, mais ça marche pas. C'est pour vous. Ça marche. Ça marche.
Bon, que me dit Marine ? Bon.
Vincent, ils ont bien alerté.
Ah oui, bon. Et je voulais également, parce que hier, j'ai lu ce qu'il y a des Balladur. C'était très intéressant d'ailleurs, Édouard Balladur dans le Figaro. Peut-être c'est
la crise de l'intelligence, évidemment.
Comment ?
Crise de l'intelligence est à la base de tout ce qui nous arrive.
Ah oui, je suis d'accord avec vous. Et c'était très intéressant. On l'a dit hier. Alors, rarement notre pays a connu des difficultés aussi graves, que ce soit dans les domaines économiques, sociaux, éducatifs, de la sécurité ou de l'immigration incontrôlée, comme si nous assistions à un affaissement général. Pour résoudre ces problèmes, nous avons besoin d'un gouvernement robuste. Il ne faut pas affaiblir ses moyens. Mais c'est vrai que la France traverse une crise, en fait, qu'une crise intellectuelle depuis 30 ans, 40 ans. C'est une crise d'identité. Ça va bien au-delà de la crise sociale ou économique. On est dans, il y a une multitude de crises. Voilà, en France, crise de savoir qui nous sommes, ce que nous sommes, où nous allons, etc. Bon, et qui se traduit par la dupes, se traduit aujourd'hui par la défiance sur le pouvoir, se traduit par les petits hommes gris qui ont fait n'importe quoi pendant des années. Mais bien sûr, parce que les gens n'y croient plus. Quand Édouard Balladur, ce n'est pas moi qui le dis, dit l'abstention d'une importance sans précédent, est-ce qu'il y a de plus grave ? Les Français ne jugent plus utile de se déplacer pour voter parce qu'ils n'ont plus confiance dans ceux qu'ils doivent élire. C'est la phrase clé, Gérard. Les Français ne jugent plus utile de se déplacer pour voter. Pourquoi ? Parce qu'en 2005, ils ont voté et qu'on leur a dit « allez faire autre chose ». Voilà, ça, les crises démocratiques. Mais c'est jamais la seule raison. Ce n'est jamais.
Je me rappelle, puisque vous parliez des retraites, que Balladur a été le premier à faire une réforme, mais en plus, il l'a fait vraiment d'une façon incroyable au plein mois d'août.
Ne parlez pas d'autre chose, je vous parle d'un truc. À chaque fois que je vous parle d'un truc, vous me parlez d'autre chose.
Parce que si on doit parler de la crise générale de la France, je veux bien, mais ça va être compliqué, ça va être un peu long quand même.
Eh bien, justement, c'est ça qu'il faut.
Mais simplement, vous pouvez pas dire uniquement à cause.
Bon, voilà. Mais les gens n'y croient plus. On parlera des choses tout à l'heure. Deux, trois choses à l'étranger. Johnson, qui dit « j'ai été menacé par Poutine ».
Oui, il est un peu rugueux, Poutine, au téléphone, visiblement.
Vous l'avez de temps en temps.
Non, mais il a sidéré de Nicolas Sarkozy en 2007 jusqu'à Johnson. Oui, il a toujours été assez
On l'écoute,
direct.
Johnson, ce qu'il a dit hier. On l'écoute.
Il m'a menacé à un moment donné et il a dit « Boris, je ne veux pas te faire de mal, mais avec un missile, ça ne prendrait qu'une minute ou quelque chose comme ça, vous savez. » Ambiance. Mais je pense que d'après le ton très détendu qu'il prenait, le genre d'air de détachement qu'il semblait avoir, il ne faisait que jouer avec mes tentatives pour le faire négocier. Il a dit « Boris, vous dites que l'Ukraine ne va pas rejoindre l'OTAN de sitôt », a-t-il dit en anglais. Qu'est-ce qui est de sitôt ? Et j'ai dit « Eh bien, il ne rejoindra pas l'OTAN dans un avenir prévisible, vous le savez parfaitement. »
C'est ce que c'est un montage, hein, quand on voit Poutine avec le téléphone, il n'est pas en train de lui dire « Boris, je le précise ». Bon, donc John Howe, un peu rugueux, comme vous dites. Mais
Boris Johnson, il bouge encore.
Oui.
Bon. Il compte bien revenir.
Bon, l'autre chose, je voulais votre avis, c'est cet envoi d'avions en Ukraine. C'est non pour le moment pour Emmanuel Macron. Écoutez la raison qu'il a donnée hier.
Par définition, rien n'est exclu, que nous apprécions toujours les choses au vu de trois critères. Que ce soit demandé utile compte tenu des délais de formation de livraison pour l'armée ukrainienne. La deuxième critère, c'est que ce ne soit pas escalatoire. C'est-à-dire que les équipements que nous livrions ne soient pas de nature à toucher le sol russe, mais bien à aider à l'effort de résistance et de protection du sol ukrainien. Le troisième critère, c'est que ça ne vienne pas affaiblir la capacité de l'armée française à protéger son propre sol et nos ressortissants. Et donc, rien n'est interdit par principe, mais c'est à l'aune de ces trois critères que nous continuerons de regarder au cas par cas.
Bordélisé, escalatoire, l'avantage c'est qu'on a un gouvernement qui invente des mots.
Créatif.
Escalatoire n'existe pas, mais c'est très révélateur, parce que c'est en fait une traduction anglaise qu'il fait de... Il aurait dû employer un autre mot, mais peu importe.
Oui.
Bon, sur le fond.
Sur le fond, c'est pipeau.
C'est-à-dire.
Il n'est pas question de livrer des jets aux Ukrainiens pour l'instant. Mais c'est une façon de se démarquer à la fois de Olaf Scholz qui, hier, expliquait qu'il n'était pas question de jamais livrer des avions de chasse aux Allemands, de montrer que, éventuellement, on pourrait le faire, nous, Français, parce qu'on en a. Contrairement aux chars lourds, on en a qu'on pourrait éventuellement. On a des rafales. Et donc, si on voulait, on pourrait. Et puis enfin, oui, c'est ça. Non, c'est curieux la façon qu'a le président systématiquement de parler des affaires. Parce qu'il est aux Pays-Bas, là. On aurait pensé qu'il parle des affaires communes.
Mais il ne parle
communes.
Plus en
France. Ouais, mais il parle de la politique intérieure, des grèves. Ce qui est tout à fait...
Non, il a fait très court, là, parce qu'on lui a posé la question. Il a dit, je ne vais pas en parler ici.
Il en parle systématiquement. Dès qu'il est à l'étranger, il parle des affaires intérieures. Donc, à chaque fois, il fait une prise de risque. Et puis là, il dit exactement le contraire de sa porte-parole, qui expliquait au même moment, sur France Info, qu'il n'était pas question de jamais livrer des avions de chasse.
Je vous ai raconté la petite anecdote que j'ai dit hier sur Olaf Scholz et la rotonde. Vous n'êtes pas au courant de ça?
Non, mais
ça, c'est drôle. Parce que le président a invité...
C'est ça les lieux symboliques et importants qui sont sur le parcours de la manifestation.
Oui, mais ça, je laisse tomber. Mais ce qui est plus drôle, c'est pas ça. Je vais vous apprendre peut-être un truc. C'est que Emmanuel Macron a invité Olaf Scholz dans ce restaurant qui s'appelle La Rotonde. Et les conseillers d'Olaf Scholz ont dit, pourquoi il l'invite à Rotonde? Et Rotonde, comme chacun sait, et le fameux wagon où a été signé l'armistice de 1918.
C'est drôle.
Et Hitler s'est vengé en faisant l'armistice de 40 à Rotonde, dans la forêt de Rotonde, etc. Ouais. Et les conseillers ont dit, très étrange, il n'avait qu'à retomber.
Magnifique.
Donc, au wagon bar.
Donc voilà. Bon, c'est évidemment tout à fait anecdotique. Dans l'actu, on parlera évidemment des petits chats. Écoutons ce qu'a dit Biden quand même. Biden, alors lui, c'est assez lapidaire. La question est posée et il répond clairement.
Monsieur le Président, est-ce que les États-Unis vont fournir des F-16 à l'Ukraine?
Non.
C'est bien parce que c'est pas en même temps, c'est non.
Non, voilà.
Oui, mais c'est non today, hier.
Oui.
Parce qu'en réalité, son conseiller adjoint à la sécurité intérieure, Sean Finner, a dit exactement le contraire. Il a dit, on va voir, on va l'étudier sérieusement. Et puis Lockheed Martin a mis à relancer.
Qui est Lockheed Martin?
C'est le grand fabricant de F-16.
D'accord.
Et donc,
vous parlez de ça comme si.
Enfin.
Je ne connais pas ce nom-là forcément, mais bon.
C'est pas le marchand de canons aujourd'hui dans le monde.
Lockheed Martin.
D'accord. A relancé ses lignes de fabrication de production de F-16.
C'est votre univers.
Pour se tenir prêt, quand même.
Bon, évidemment, l'actualité ce matin, c'est la grève. Les commerçants, je voulais qu'on voit le sujet sur les commerçants. On sera peut-être en direct de Marseille également tout à l'heure. Les commerçants ont un peu peur. On les comprend à moins. Geoffrey Defevre vous montre les commerçants, notamment à Paris.
Richard, miroitier, installe des planches de bois sur les devantures avec son équipe. Il a déjà été sollicité par 4 banques pour prévenir d'éventuels actes de vandalisme.
Tout ce qui touche au capitalisme, les banques, l'immobilier, toutes ces choses-là, voilà. À chaque fois, on est appelé pour faire des protections systématiquement, de façon à ce qu'ils ne cassent pas comme ils font, ils ont l'habitude de faire.
À mi-parcours, certains commerçants ont décidé de fermer boutique, quitte à perdre leur chiffre d'affaires journalier.
La police vous dit de fermer, donc on ferme. Les chiffres d'affaires, il est moins, c'est 1000 euros. C'est un manque à gagner, quoi, c'est clair.
Ce libraire est installé ici depuis 35 ans. Lui sera ouvert, mais anticipe de potentiels débordements.
Très simplement, on est quand même attentif, c'est-à-dire qu'on a une vitrine, on y a des livres, et lorsqu'on voit effectivement qu'il y a des échauffourées, que ça commence à taper un petit peu plus en amont, alors à ce moment-là, on a un rideau à l'ancienne qu'on baisse à la main avec une énorme manivelle, et là, on fait ça en quelques minutes.
Pour sécuriser la manifestation, 4000 policiers et gendarmes seront déployés à Paris, 11 000 dans tout le pays.
Voilà ce qu'on pouvait dire sur ces dangers de la manifestation. Claude Beata est venu avec nous ce matin pour parler de la folie des chats et ça nous intéressait beaucoup après ce qui s'était passé à la SNCF la semaine passée. Enfin, on l'a appris la semaine passée. Quels sont les rapports entre les animaux et entre les chats, pardon, et les humains? C'est une question qui nous intéresse. Un chat n'est pas un chien. Bien évidemment, un chat n'est pas social. A priori, un chat fait ce qu'il veut.
L'espèce donc, n'est pas sociale.
Ouais. Voilà. Alors, nous, on connaît le rapport que nous avons avec le chat. Bon, mais le chat, quel rapport a-t-il avec nous?
C'est pour ça que je les ai interviewés. Hein.
C'est une question.
Vous l'avez vu.
C'est une question quand même qui m'intéresse parce que je ne suis pas. Non, mais le chat, comment il vit?
J'avais lu le livre et j'ai fait une scénette où ils me disent qu'ils me donnent un diplôme de traducteur de la langue féline pour les présenter aux autres. Mais blague à part, 15 millions de chats. 15 millions de chats en France, hein, c'est de très loin maintenant par rapport aux chiens. C'est deux fois plus que de chiens, à la fois parce qu'il y a une société qui, même si elle est violente, est aussi une société, par exemple, avec des RTT, qui fait que les gens peuvent partir deux jours et demi en week-end. Vous ne laissez pas un chien, vous pouvez laisser un chat.
Donc même plus que ça, on peut le laisser 8 jours parfois, voilà, un chat.
C'est un animal pratique, si on peut dire. Oui. Et en même temps, c'est aussi un animal qui correspond à des valeurs de cocooning, de respect du corps, hein, notamment en ce moment, ça c'est quelque chose de très très fort. Les chats sont différents des chiens. Ils nous obligent à réfléchir pour être en harmonie avec eux. C'est pas automatique. Vous avez un chien, moi j'ai des chiens et des chats évidemment, mais un chien c'est un peu plus facile. Vous l'appelez, il vient, il vous appelle, vous y allez. Mais un chat, il peut vraiment, il faut parfois réfléchir à qu'est-ce qui va lui faire plaisir, surtout qu'est-ce qui ne va pas lui faire plaisir. Par exemple, la grande erreur des humains avec les chats, ça a été de les punir. Hein. On a puni les chevaux, on a puni les enfants, on a puni les chiens, et on arrivait à peu près à les éduquer comme ça, même si ça pouvait faire des catastrophes. Vous punissez un chat, vous n'en obtiendrez rien. Donc, c'est les chats qui ont été vraiment les premiers champions de l'éducation positive, parce qu'autant vous en obtenez beaucoup si vous leur faites des récompenses, si vous ne les leur faites pas peur et vous leur faites pas mal. Et là-dessus, ils sont vraiment précurseurs. Par ailleurs, le deuxième volet, c'est que ces animaux aussi peuvent souffrir de souffrances psychologiques et qu'elle est dominée par l'inhibition. C'est-à-dire que quand ils vont mal, ils ne font rien. Donc si vous avez un chat à la maison, regardez-le. Si vous avez un chat un peu gros, un chat qui manque du poil sous le ventre, ce sont des signes d'anxiété permanente. Ça veut dire qu'il se lèche beaucoup, qu'il n'arrive pas à exprimer ses comportements naturels et qu'il a besoin d'aide.
Le chat doit pouvoir exprimer sa volonté de contrôler la quantité de caresses et donc de la limiter à sa guise. Mettez au point un signal de contact, par exemple, présenter la main fermée avec le majeur recourbé.
Comme ça, moi je fais ça à mes chats, ils viennent et s'ils se frottent, donc ce mouvement de se frotter, ça s'appelle de l'allomarquage, ils déposent une phéromone qui dit « tu es quelqu'un de positif ». Quand le chat fait ça, c'est comme s'il vous donnait un ticket pour une caresse. Il y a beaucoup de chats qui souffrent de ça. Ils viennent sur les genoux des gens. Quand ils viennent sur les genoux, les gens se disent « il vient pour être caressé ». Ils vont les toucher, ils vont les retoucher. Et là, le chat va commencer à avoir des signaux très, très caractéristiques. Les oreilles qui s'abaissent, la queue qui commence à bouger, le dos qui commence à vibrer. Ça veut dire « je ne suis pas bien ». En fait, je n'ai pas envie d'être touché. J'avais envie d'être sur tes genoux, mais je n'avais pas envie d'être touché. Donc, il faut apprendre à respecter ça.
Bon, vous avez, je ne sais pas qu'il y a des chats, des chiens, quoi, des chats en l'occurrence. Non, personne.
On dit avec des chiens.
Non, mais moi, j'ai une question. Moi, j'ai un doute quand même.
C'est plus sympa.
J'aime beaucoup les animaux de compagnie, mais je m'interroge sur un chat qui ne quitte pas un appartement. Est-ce que c'est normal? Est-ce que c'est bien pour lui?
Alors, on avait la même question.
C'est pas bien pour l'appartement, en tout cas.
Il y en a beaucoup de gens qui...
Il y a un chapitre, chat intérieur, chat extérieur.
Voilà, ouais, on a fait tout un chapitre là-dessus. Et il y a une consoeur qui a fait son mémoire de vétérinaire psychiatre là-dessus, qui a montré qu'il n'y avait pas plus de troubles chez les chats qui reste à l'intérieur que chez les chats qui sortent. Le danger, c'est le chat qui a toujours vécu à l'extérieur et qu'on va faire vivre à l'intérieur. Mmh. En revanche, le chat qui s'est développé dans un élevage ou qui s'est développé dans un appartement et qui continue de vivre en appartement, à condition qu'on lui offre les conditions nécessaires, c'est-à-dire, par exemple, de quoi explorer, de quoi faire des leurres de chasse, de quoi faire, il peut être parfaitement en équilibre.
Ce qui me frappe, c'est que de plus en plus, je vois par exemple, notamment sur Facebook, des personnes donner des prénoms que pourraient donner à des enfants, des prénoms Jean-Claude. À des chats. Voilà, de plus en plus. Et même.
Ou Jean-Philippe.
Il m'est arrivé. Non, mais
Maurice.
Il m'est arrivé.
Jean-Louis.
Non, mais Maurice. Bah, oui, Maurice. Mais, il m'est arrivé de lire, par exemple, un avis sur Facebook et d'une personne morte et de m'apercevoir à la fin qu'il s'agissait d'un chat. Parce que jusqu'au bout, je croyais que c'était un humain.
Oui.
Et ça, on voit ça de plus en plus.
Et moi, la question qui me vient, c'est pourquoi ça vous choque ?
Moi, ça me choque. Moi, je suis de la vieille époque, c'est-à-dire l'époque de Leibniz, qui pensait que la différence entre l'homme et l'animal, c'est que l'homme perçoit qu'il perçoit, alors que l'animal perçoit.
Alors voilà. En plus, actuellement, toutes les...
Pardon d'introduire un peu un élément...
Non, mais toutes les études, et notamment les équipes de Vienne ou de Budapest, montrent que l'animal sait qu'il sait. Donc, la limite que vous mettez, qui est un niveau de conscience...
C'est pas moi, c'est Leibniz.
On la repousse. Oui. Ben, Leibniz s'est trompé. le niveau de conscience, on le repousse de...
J'ai plus tendance à considérer que les études se sont trompées plutôt que Leibniz.
Oui,
excusez-moi. Voilà. Enfin, je suis à ce niveau-là pour l'instant.
Les études, mais vraiment, c'est important ce que vous dites, parce que cette différence sur la conscience, de considérer... L'animal a été considéré comme un objet. Et d'ailleurs, dans le droit français, il n'y a que depuis 2015 qu'il a un peu changé. Mais sinon, il était un objet qu'on pouvait casser, qu'on pouvait...
C'est pas la même chose, ça. C'est pas ce que dit Leibniz.
Oui.
Leibniz reconnaît la perception.
Oui.
Mais c'est, ce qui m'en doute, c'est la perception de la perception.
Alors, vous avez cité plusieurs fois quelqu'un que le public ne connaît pas, vous avez dit Leibniz.
Ah, voilà. Le philosophe allemand. Oui. Voilà.
Je suis d'accord avec vous, mais expliquez peut-être Leibniz, qui est ce.
Leibniz est un très très grand philosophe, voilà, à qui on doit notamment ce qu'est la monade. C'est un grand philosophe
ce qu'est la monade.
Du 17e siècle. C'est-à-dire, ce que la monade, c'est-à-dire qu'il a initié le fait qu'on puisse, à un moment donné, comprendre ce que allait être un atome. Voilà. Ouais, donc, Leibniz est un immense philosophe.
Oui, situe, j'entends bien, mais bon, le public ne connaissait
il
n'a
se
pas.
Situe, pardonnez-moi, votre... entre Descartes et Kant, pour aller rapidement. Oui. Voilà.
Ceux-là sont plus connus que votre ami
Leibniz. Leibniz est un des plus grands philosophes.
De philosophe à philosophe, je vous engage à lire Baptiste Morisot, je vous engage à lire Bastien Després, qui sont des philosophes actuels de l'animal, Élisabeth de Fontenay.
Élisabeth de Fontenay, je connais bien pour avoir été...
Il n'a rien à voir avec Geneviève de Fontenay, je précise pour notre...
Un coup de chapeau à Élisabeth de Fontenay, pardonnez-moi.
Élisabeth de Fontenay qui a...
Florence Burger, il y a des tas de philosophes actuels de l'animal qui reconnaissent cette capacité de savoir...
Vous savez que les gens, moi j'ai beaucoup de témoignages, les gens maintenant regardent leur dépro avec un crayon et ils notent, ils prennent des notes. Ils disent Leibniz.
Alors, c'est écrit.
Voilà, Geneviève, Élisabeth de Fontenay qui avait fait un livre avec Anna Finkielkraut notamment. Voilà. Chérie, tu vas au supermarché. Bon, quoi, c'est pas au supermarché, peut-être qu'on va trouver des livres comme cela. De son prénom, Leibniz.
Élisabeth de Fontenay est quelqu'un, en effet, de remarquable, qui a initié, en tout cas, l'opinion publique à l'idée de la souffrance animale et qui en a même convaincu Anna Finkielkraut.
Et qui a participé à la déconstruction du propre de l'homme, ce fameux propre de l'homme.
Oui, bon, mais alors de déconstruction en déconstruction, moi je préfère plutôt la construction que la déconstruction.
D'accord. Alors, chat et féminisme. Le chat est iconique de notre époque, écrivez-vous, parce qu'il est porteur de valeurs féminines et que nos sociétés modernes sont en train de les adopter. De mon adolescence à maintenant, j'aurais vu le monde, en tout cas occidental, vivre une transition qui le fait passer d'une structure qui pourrait se qualifier de canine, masculine, hiérarchique et verticale, dont les valeurs affichées étaient la virilité, voire l'agressivité et la puissance, à une structure féminine, collaborative et horizontale, aux valeurs centrées sur la qualité de vie, sur l'attention portée au territoire et aux relations, ce qui se rapproche d'une conception féline.
Tout chat pour chat.
Je pense...
Leibniz, lisez-le moins, parce que franchement, ça vous...
Je pense que quand la politique...
Oui, non, mais c'est rigolo
de
dire ça.
Quand la politique s'imprégnera de ça, on aura des décisions différentes aussi.
C'est-à-dire que quand...
Des décisions plus centrées sur la qualité de vie, des décisions qui ne vont pas aller peut-être moins brutales, etc.
Faites référence à la position du gouvernement sur la corrida, sur la chasse.
Je ne parle pas de ça.
Sur les retraites.
Je ne parle pas de ça.
Si vous avez une question à poser, n'hésitez pas.
Je crois que vous restez sur la thématique animale.
J'ai jamais assisté.
Il s'appelle comment vos chats ?
Pardon ?
Il s'appelle comment vos chats ?
Et alors, ils ont tous des noms de, soit de films, soit de bandes dessinées. Donc, on a Solo et Flora, mais on n'a pas de nom, comme disait...
Vous avez dit de films ?
Ah non, moi, je ne leur donne pas de nom chrétien, me disait-elle.
De dessins animés.
On dirait qu'elle ne donnait pas de prénom.
Oui, c'est joli.
Je ne donne pas de nom chrétien.
Mais, Solo ?
Solo, commande Solo.
Oui.
Avec les étoiles.
Ouais. Solo, la pays garde d'étoiles. Ouais. Mmh. Et puis l'autre, c'est...
Flora.
Flora. Voilà. Bon. Voilà. Et alors, les chiens, ils s'appellent comment ?
Les chiens, ils s'appellent Tetris.
Ouais.
Et Jedi.
Ah oui, donc vous êtes très, vous, la...
C'est Jedi, parce que c'est un fox terrier qui est un véritable guerrier. Hein.
Bien sûr. Vous avez des chats, des chiens
Non, pas du tout. Non.
Vous chassez à court.
Ni poisson rouge, ni tortue.
Le week-end, vous chassez à court, m'a-t-on dit.
Non, pas du tout.
Sur vos terres.
Le week-end, non.
Sur vos terres.
Non, moi, je... Oui. Non. Les chevaux... Cela dit, ça sent un peu le naufrage, parce que oui. Ça rappelle la Rome antique où on pouvait faire élire, désigner un cheval sénateur.
Bien sûr, oui, et c'était Alexandre qui avait fait élire son cheval, qui s'appelait Bucéphale, non,
c'était Caligula.
Caligula.
Qui en avait fait un sénateur. Il aimait beaucoup les chats aussi, Caligula.
Exactement. Bon.
Et Hitler adorait les animaux. Hitler adorait les chiens.
Et il était végétarien. Oui, ce que
comment
je dis, Hitler était végétarien.
On peut difficilement finir là-dessus.
On pouvait... Non, mais attendez. Là, les plaisanteries, on peut plaisanter sur tout, mais peut-être pas...
Excusez-moi, on peut difficilement finir là-dessus sur le fait de dire que les animaux, ça représente Hitler ou quoi que ce soit.
Ah, non,
c'est un foyer sur deux qui est un animal de compagnie.
Bien évidemment.
Pour qui c'est un membre de la famille.
Audrey Berthaud.
C'est la place.
Et pour qui c'est quelqu'un d'important.
Oui.
C'est un succès incroyable.
Bien sûr. Mais attendez, votre livre, il marche bien, votre livre.
Oui.
La folie des chats de monsieur Claude Beata. Et c'est Boris Cyrulnik. Il a des chats, Boris Cyrulnik.
Je pense qu'il marche bien. Il marche bien parce qu'il montre que on vit bien avec les chats quand on les respecte et qu'on peut vivre en harmonie.
C'est marrant, le titre. Bah,
exactement. La folie des chats. Et puis moi, j'aime beaucoup ce petit chat. Le petit chat est mort. Dommage, mais quoi, nous sommes tous mortels. Audrey Berthaud.
Un cortège de mariage dégénère à Épinay-sur-Seine, en Seine-Saint-Denis. Le maire de la ville a refusé de le célébrer, justifiant sa décision par les multiples désordres provoqués par le cortège. Vous le voyez, il y a eu des rodéos urbains, des tirs de pétards et également l'agression d'un automobiliste qui a été roué de coups et transporté à l'hôpital. La délinquance en France, la quasi-totalité des crimes et délits ont augmenté en 2022, notamment les violences intrafamiliales et sexuelles. Ce sont les chiffres du ministère de l'Intérieur. Les coups et blessures volontaires et les escroqueries ont également augmenté. Oui.
Non, parce que je reçois un message, mais honnêtement, je ne connaissais pas votre...
Lanitz.
Bon, mais parce que vous l'avez mal prononcé, c'est Leibniz qui est contemporain de Voltaire, nous sommes d'accord.
Ah, oui, c'est Leibniz.
Oui, bah, voilà. Moi, j'ai toujours dit Leibniz. Pardonnez-moi, alors je me disais, mais qui est ce Leibniz? Écoutez, c'est pour ça que j'ai un peu, tout à l'heure, je vous ai taquiné.
En effet, vous avez raison de
citer... L-E-I-B, ça ne se dit pas Leibniz.
C'est Leibniz.
Ben oui. Ben oui, mais lui, il a dit Leibniz, alors...
Mais
vous l'avez très mal, vous le savez, vous l'avez même pas lu, et vous l'avez pas franchement. Là, vous m'avez.
Vous voulez que je vous parle des nouveaux essais sur l'entendement humain?
Leibniz,
Leibniz.
Allô, c'est quoi ce bordel?
C'est un petit sur le nez pour qu'on puisse mettre des lunettes.
Exactement, c'est tout à fait. Vous avez parfaitement raison. Est-ce que Michael Decaze est avec nous en direct de Nantes, Michael Chailloux? Pardonnez-moi, c'est Jean-Michel Decaze et Michaël Chailloux, pardonnez-moi. Est-ce que, Michaël, vous êtes où ?
Alors, on est devant le château des Ducs de Bretagne, ici à Nantes, sur cette place qui s'appelle le Miroir d'eau Pascal. L'enjeu, évidemment, alors tout le monde est en train de se mettre en place. Hein, vous voyez derrière nous, les différentes sonorisations de chaque syndicat sont en train de se mettre en place. Les gens arrivent. L'enjeu, évidemment, c'est d'essayer, en tout cas, c'est ce que nous ont dit les syndicats depuis ce matin, c'est d'essayer de rassembler davantage que lors de la première manifestation du 19 janvier, où ils étaient était, selon les syndicats, 45 000 ici même à Nantes, 25 000 selon le décompte de la police. Donc on va voir tout à l'heure ce que ça va donner. Les choses sont en train de se mettre en place pour un défilé dans la ville qui va partir vraisemblablement plutôt vers 11h, 11h30, puisque le rendez-vous ici est à 10h30, il y a des prises de parole. Et puis le défilé devrait se terminer du côté des machines de Lille, vous savez, là où il y a cet éléphant très connu, symbolique maintenant, de la ville de Nantes.
Michael, est-ce que vous pourriez aller à l'église Saint-Similien à Nantes, qui doit être à vol d'oiseau à 1 km? Et vous savez pourquoi vous pourriez y aller aujourd'hui, Michael? Parce qu'il y a 64 ans de cela, c'était le 31 janvier 1959, en l'église de Saint-Similien, eh bien, mes parents se mariaient. Donc, 64 ans de mariage. On peut leur faire un petit coucou. Vous vous rendez compte? 64 ans de mariage. Merci, Michael. Merci beaucoup. Amaury Bucaud était avec nous hier. Sur ces jeunes qui ont agressé le barbier, je lui avais demandé de me tenir au courant s'il avait une information. Le majeur passe en comparution immédiate cet après-midi. Donc les deux autres, je ne sais pas ce qu'il en est, qui étaient mineurs, mais le majeur passe en comparution. Vous savez, c'est ces gens qui ont agressé un barbier, on en a parlé hier. Marine Lançon est de retour. Alors, elle a eu très très peur. Après 4 heures de vol, il y a eu des... Elle m'a raconté, les hôtesses se sont assises dans l'avion. Et quand les hôtesses... Ah oui, ça c'était très... Donc elle a repris un Xanax du coup et elle n'a pas vu la fin du vol. Mais tout s'est bien passé, elle est avec nous. Audrey Missirac a été à la réalisation, Adam était au son, Ludovic Liebard était à la vision, Marine Lançon donc de retour, Justine Cerquera était là, Monsieur Morandini dans une seconde, Claude Beata, La folie des chats, Leibniz.
À lire, si vous voulez quelque chose.
Oui, non, j'ai deviné. Leibniz. Non, c'est fini.
Lisez Nouveaux essais sur l'entendement humain, qui voilà. Sa controverse avec Locke.
Leibniz, bien évidemment, que chacun aura reconnu, bien évidemment, ce célèbre philosophe contemporain de Voltaire. Mais tout le monde connaît Leibniz. Il disait le nez, c'est fait pour les lunettes. Donc c'est dire, s'il a dit des choses intéressantes. Bon, vraiment, c'était. On est content de l'avoir, lui. Comment?
Quelle émission.
Bah oui. À demain, à ce soir.